Dos Santos, vous êtes journaliste, vous êtes le présentateur du 20h au Portugal depuis plus de 30 ans, mais vous êtes aussi écrivain, on vous présente parfois comme le Dan Brown portugais hein, au fil des livres. Vous êtes en effet imposé comme l'un des plus grands auteurs de ce qu'on pourrait nommer des thrillers érudits et des romans historiques. Vous êtes notamment l'auteur de La Formule de Dieu, un immense succès de librairie qui s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et dans votre nouveau livre, il est question d'une étrange histoire qui se déroule à Amsterdam, au cœur du XVIIe siècle. Vous nous plongez dans la communauté juive portugaise de l'époque, vous nous racontez la vie et les idées du philosophe Spinoza, celui que vous nommez l'homme qui a tué Dieu, c'est aux éditions Hervé Chopin. Alors de prime abord, on pourrait se dire que la vie d'un philosophe, c'est pas très romanesque hein, quand même. Eh bien, c'est pas le cas du tout en ce qui concerne Spinoza, puisque sa vie, elle a quelque chose de pas banal. Hein. Son histoire a des accents de thriller par moment, et vous nous le racontez très bien, José Rodriguez dos Santos. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Spinoza? Quand remonte votre intérêt pour lui?
Vous savez, les philosophes sont responsables par des grandes révolutions. Normalement, un philosophe, voire un scientifique, le fait. On voit Copernic qui a fait la révolution de nous montrer que nous n'étions pas le centre de l'univers, ou Newton qui a créé la physique classique, ou Darwin, ou Einstein, que chacun avec une révolution. Dans le cas de Spinoza, il n'a pas fait une révolution, il a fait deux énormes révolutions. Et nous, aujourd'hui, habitons dans le monde de Spinoza, et c'est ce monde, comment ce monde a été né, que je voulais...
Nous parler. Sommes spinozistes sans le savoir même, c'est ça que vous nous dites.
Oui, parce que la première grande révolution qu'il a fait, c'était de finaliser la méthode scientifique que nous avons aujourd'hui, une méthode qui a été développée par Francis Bacon en Angleterre et René Descartes aux Pays-Bas, mais il disait que la nature, c'est cause et effet, tout est lié, c'est une sorte d'automatisme mécanique entre les choses, mais Dieu est la première source. Et au-delà de ça, Dieu, il pouvait changer les lois de la nature pour créer les miracles. Ouais. Et Spinoza a finalisé la méthode scientifique en disant « Désolé, c'est pas ainsi, Dieu est la nature. » Et la nature s'explique par la nature, ouais. Et elle ne change pas les lois. Et ça, c'est la méthode que nous utilisons aujourd'hui pour développer la vaccine contre la Covid-19 ou pour parler par la radio, oui. Aux Belges. C'est pas par magie, c'est pas un miracle, oui. C'est vraiment la manipulation des lois de la nature, l'électromagnétique dont Spinoza parlait.
Oui. Oui, on va revenir là-dessus un peu plus tard, José Rodriguez dos Santos, mais d'abord, j'aimerais bien qu'on se plonge un peu dans ce contexte. Amsterdam, ça ressemble à quoi à l'époque? C'est quoi l'ambiance dans laquelle évolue Spinoza?
Amsterdam, c'était une ville très intéressante car c'est où le capitalisme et le libéralisme est né vraiment. C'est à l'époque féodale, évidemment, et la naissance du capitalisme a amené à une grande richesse. Et soudain, Amsterdam, c'était la ville la plus riche du monde, aussi développée dans le sens, par exemple, que tout était propre. À cette époque-là, les villes étaient sales. Paris, Lisbonne, Madrid, Londres, ils avaient des égouts dans les roues et tout ça. Et Amsterdam, non, tout était propre. Et ça attirait des gens, des visiteurs qui venaient d'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, pour voir ce miracle. Et c'est dans cette ville de penseurs, de l'art et bon, du développement économique que... Ouais. Spinoza
évolue. Et quelle est la situation de comment fonctionne la communauté juive portugaise? C'est quand même une communauté tout à fait particulière. Comment elle fonctionne, cette communauté?
Alors, il s'appelait Nação, on voit voir Nation. C'était surtout des juifs portugais, mais quelques espagnols aussi. Je dirais 80% portugais, 20% des espagnols. Mais ils se mélangeaient sans discrimination. Ils parlaient portugais partout, évidemment, même dans la synagogue. Mais ils ont créé une synagogue très importante où ils avaient des chiyachivs, des écoles, où ils enseignaient hébraïque, ce qui était un miracle à cette époque dans le monde juif. Il y avait des juifs aussi qui venaient à Amsterdam pour voir ce que les Portugais ont fait là. Et avec les Néerlandais, ils ont créé la bourse d'Amsterdam et aussi la Compagnie des Indes orientales. Et vraiment, ils étaient, avec les Néerlandais, oui. Le centre du développement à cette époque.
Oui, c'est très particulier parce que vous le dites aussi dans votre livre, en fait, on apprend que Rembrandt habitait pas très loin de chez Spinoza, ils se sont probablement rencontrés.
Oui, Rembrandt, il habitait à Lautgracht parce qu'il voulait faire des tableaux bibliques. Et évidemment, faire la peinture des Portugais, des Juifs portugais, peut-être l'amener à trouver des visages d'Abraham et de Jésus, n'importe quoi. Et alors, oui, il habitait là, il faisait ses peintures des Juifs portugais et c'est très probable qu'ils sont croisés. Est-ce qu'ils ont parlé? Probablement pas, mais ils étaient dans le même lieu. C'était pas une ville énorme comme aujourd'hui, évidemment.
Il se destine à être rabbin, Spinoza. Il étudie ces textes religieux. Qu'est-ce qui l'amène, ce jeune Spinoza, à remettre en question comme ça la religion?
Alors, Spinoza, il était ce qu'on aujourd'hui on appelle un enfant surdoué.
Surdoué.
Il était considéré un miracle de la communauté portugaise. Son destin, ce serait le plus haut possible. Mais puisqu'il était très intelligent, les gens intelligentes sont très curieuses. Et il était curieux. Alors, il apprenait à la yeshiva, à l'école de la synagogue, que, en effet, la Bible, c'était le texte dicté par Dieu lui-même, c'était une inspiration divine, tous les mystères de la nature étaient inscrits dans la Bible, et bon, et on ne posait pas de questions, mais du moment que, et ça c'est où le roman déclenche, il est dans la synagogue et il voit le châtiment de Uriel de Kocht, un événement réel, et il se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça à Uriel? Et son père dit, bon, mais il est en hérésie, il a offensé à Dieu. Et alors, il, pour la première fois, il est confronté avec quelqu'un qui a dit quelque chose de différent de ce qu'il apprenait à l'école.
Ouais.
Et ça l'amène à montrer qu'il est possible de poser des questions.
Mais dangereux, parce que Spinoza va lui-même connaître ce sort-là. Il va être excommunié donc en 1656. Ça veut dire quoi concrètement être excommunié à l'époque? Ça équivaut à une mort sociale?
Oui. Alors, l'excommunication dans la communauté juive portugaise, on pouvait être excommuniqué par un jour seulement, par exemple.
Ouais. Lui, c'est à vie.
C'était à vie. Quelques ans, c'était à vie, mais lui, c'est l'excommunication la plus violente jamais de l'histoire du judaïsme.
Ouais. Comment on l'explique ça? Pourquoi cette violence envers ce Spinoza?
Alors, voilà. Spinoza, il y a des historiens qui disent qu'il était un homme très prudent, parce que sa phrase qu'il avait toujours proche de lui, c'était caute, c'est latin pour prudence. Alors il était un homme prudent. Mais finalement, je trouve que les historiens qui disent ça sont en erreur, parce qu'il n'était pas prudent du tout.
Il prenait des risques.
Et absolument, et je pense qu'il utilisait cette phrase caute pour se rappeler qu'il était imprudent. Et il faisait des choses, il disait des choses absolument inacceptables à son époque. Et c'est grâce à cela que le monde a changé.
Ouais. C'est une histoire, je l'ai dit en introduction, digne d'un thriller quand même par moment, cette vie. Vous racontez notamment comment Spinoza échappe à une tentative d'assassinat. On lui en veut vraiment, on veut le tuer.
Oui, oui, il a été poignardé à la sortie du théâtre d'Amsterdam par apparemment un juif portugais.
C'est ça.
Qui était évidemment offensé par les choses qu'il disait. Et il disait souvent, même en synagogue, des choses sur Dieu et tout ça.
Ça ne plaisait pas.
Inacceptable. C'est pourquoi je dis qu'il n'était pas prudent du tout.
On raconte, José Rodriguez de Santos, qu'il aurait conservé le manteau troué par la lame donc de son agresseur pour se rappeler que la passion religieuse peut mener à la folie. C'est vrai ça ou c'est une légende?
Oui, oui, je pensais que c'est toujours le rappelant parce qu'il était toujours conscient qu'il n'était pas prudent. Et alors, il se encerclait des choses pour le rappeler de ce danger de son comportement.
Ce passage, qui est digne d'un thriller, comme j'ai dit, il fait penser à un grand maître du thriller historique, c'est Umberto Eco. On va écouter un extrait du Nom de la Rose.
Attends, tu t'imagines? Nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. Combien d'autres salles? Combien d'autres livres? Personne ne devrait se voir interdire de consulter ces livres.
Peut-être sont-ils considérés comme trop précieux? Trop fragile?
Non, c'est pas cela. C'est parce qu'il enferme souvent une sagesse différente de la cour et des idées qui pourraient nous amener à douter de l'infaillibilité de la parole divine.
Le nom de la rose, roman célèbre évidemment d'Umberto Eco, adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano avec notamment Sean Connery dans le rôle de Guillaume de Baskerville. Il a compté dans votre parcours, Umberto Eco, dans votre approche du roman et de la littérature?
Je lui ai visité chez lui à Milan deux fois et en effet, il y a des gens qui me comparent à Dan Brown, mais il y a des autres qui me comparent à Umberto
Eco. Vous préférez lequel, vous, Umberto Eco ou Dan Brown?
Je suis en effet différent, mais chacun voit les bouquins de sa façon. Mais le fait, c'est que Umberto Eco, il me montre tout un monde qui est mystérieux, mais qui est réel. Et c'est en effet ce que j'essaye de faire.
Mais comment on équilibre justement dans ce genre de roman la fiction et l'histoire, au fond? Parce qu'il y a des choses, on imagine bien, quand on romance, qui ne sont pas nécessairement tout à fait vraies. Comment on fait cet équilibrage-là?
Alors, dans Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, ce que je fais vraiment, c'est l'histoire, c'est la vie de Spinoza et ses idées. Mais il y a des éléments sur sa vie qu'on est sûr, d'autres, qu'on a des informations. Par exemple, le châtiment d'Uriel da Costa, dont le roman déclenche le premier chapitre. Est-ce que Spinoza, il était là?
Est-ce qu'il était présent ou non? Ça, on ne sait pas exactement.
Exactement. On n'est pas sûr. Probablement, oui. Pourquoi? C'était un samedi. Le père de Spinoza, il était religieux, Miguel. Et alors, il avait 8 ans, Spinoza. Alors, c'est inévitable. On pense que Miguel a amené son fils à la synagogue ce jour-là. Alors, c'est probable. Qu'est-ce que j'imagine? J'imagine comment il a vu un gosse de 8 ans a vu cet événement, les questions qui s'est posées. Ça, c'est la fiction, mais c'est une fiction informée. Ce sont des déductions que je pense sont pertinentes. Par exemple, on sait que son premier ami néerlandais était Yarik. Yarik, il avait des commerces avec des juifs portugais sur les fruits secs.
Oui.
Et Spinoza, sa compagnie, c'était des fruits, il importait des fruits secs du Portugal. Et les deux fréquentaient la bourse d'Amsterdam. Alors, on ne sait exactement comment ils sont trouvés, mais on peut
le raconter.
On peut imaginer que c'était effectivement le business du fruit sec à la bourse qui les a amenés à se rejoindre. Alors, c'est une fiction informée.
Informée. Qu'est-ce qu'il fait après son excommunication? Il doit partir, Spinoza. Alors, on dit qu'il a gagné sa vie en polissant des verres de microscope. Alors, ça, c'est étonnant aussi.
Oui, et étonnant et pas étonnant aussi. Pourquoi? Jusqu'à cette époque-là, les grandes découvertes sur le monde étaient faites par surtout les Portugais et les Espagnols avec les explorations de la planète. Mais puis, à cette époque-là, au XVIIe siècle, on connaissait le plus important de la planète. Alors, Spinoza s'est dit, mais le prochain grand moyen de découvrir le monde sont les lents, parce qu'on peut voir le très grand et le très petit. Et c'est ça.
Ça a à voir avec sa philosophie, donc, d'une certaine façon. C'est le sens du détail, la précision, la rigueur.
Et aussi, mais aussi parce que l'élan amenait à des mondes inconnus, parce que aux Pays-Bas, par exemple, on avait vu les anneaux de Saturne. On pouvait voir des bactéries avec le microscope et tout ça. Alors, il comprenait que c'était le nouveau monde. Et à cette époque-là, le mot scientifique n'existait pas. Pour les gens qui on appelle aujourd'hui scientifique, on appelait à cette époque-là philosophe. Alors, il était un philosophe, mais il était aussi un scientifique.
Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, dites-vous, est-ce qu'en même temps il est ce qu'on appelle un athée, Spinoza?
Il y a un débat sur ce sujet entre les philosophes et les historiens. Spinoza, il parlait beaucoup de Dieu, béatitude, joie, tout cela. Et les philosophes disent, ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils pensaient. Les historiens, et je suis d'accord avec les historiens, disent une autre chose. Ils disent qu'il faut lire Spinoza dans le contexte de son époque. Il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Alors, il utilisait une sorte de code. Il parlait de Dieu, mais En effet, ce qu'il voulait parler, c'était de la nature. C'est pourquoi dans son livre éthique, il y a cette phrase-là, « Deus sive natura », voire « Dieu ou la nature », voire « Dieu est la nature ».
Mais ça veut dire que Dieu devient impersonnel quand même dans cette vision.
Ah oui, c'était la nature. Il y a une histoire apocryphe qui dit que quand il a écrit l'éthique, il n'a pas une fois écrit la parole « Dieu ». C'était toujours la nature. Furent ses amis néerlandais qui l'imploraient d'écrire un lieu de nature, Dieu. Et alors, c'est ça. Alors, il faut le comprendre dans son contexte. Et en effet, c'est Spinoza lui-même, dans le traité théologique politique, qui a enseigné que tous les textes doivent être lus en contexte de son époque.
C'est ça, de manière scientifique, on pourrait dire aujourd'hui, même si le mot n'existait
Exactement.
Pas de manière plus scientifique comme on le ferait aujourd'hui.
En utilisant la raison, c'est ce qu'on disait à cette époque-là, et la méthode historique a été inventée par Spinoza, justement, l'enseigne à faire voir un contexte.
José Rodríguez dos Santos, si Dieu c'est la nature, est-ce que Spinoza est panthéiste? Ce serait ça le...
Non, il a inventé le panthéisme.
Le panthéisme.
Alors, il a utilisé aussi la logique pour le faire, parce qu'il a dit... Première chose, Dieu est infini. Alors, si Dieu est infini, nous sommes Dieu. Et la religion, non. Dieu, c'est une chose, et nous, les êtres humains, sommes une autre chose. Mais Dieu est infini, oui. Mais si Dieu est infini, nous ne pouvons pas être son limite. Parce que si nous sommes son limite, il n'est pas infini, il est en limite. Alors, nous sommes partie de Dieu. Et là, il a bouleversé les religieux. Mais il a dit, mais c'est la nature. Nous sommes des êtres naturels. Alors si la nature, elle est Dieu, nous sommes partis de cela. Et en effet, c'est curieux parce que c'est aussi le message de mon roman dont vous avez parlé, La Formule
Tout
de Dieu.
À fait. Et on va y revenir dans quelques instants. Vous citiez le nom de son grand livre à l'instant, c'est L'Éthique. C'est un livre qui est quand même réputé difficile d'accès, hein, José Rodríguez dos Santos. C'est un livre dépouillé, aride, c'est une langue difficile, il y a un choix de la langue, c'est presque géométrique. Pourquoi il cherche cette rigueur extrême? Pourquoi il choisit d'écrire comme ça, Spinoza?
Alors, pour comprendre l'éthique, il ne faut que lire Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, et ça explique les idées
très bon
d'une
conseil.
Façon peu plus accessible. Il croyait à la méthode de la logique. Il croyait qu'en utilisant la logique, on pouvait tout expliquer dans l'univers. Et en effet, l'éthique, on parle souvent d'Einstein qui voulait créer la théorie de tout, pour tout expliquer. Et l'éthique est le premier effort d'un scientifique d'expliquer tout en utilisant seulement la logique. C'est pourquoi c'est un texte difficile et géométrique, en effet, et je fais l'effort de l'expliquer d'une façon très, très claire. Mais c'était une sorte de déduction pour arriver aux réponses.
Si vous deviez donner un conseil à nos auditeurs et à nos auditrices de lecture, comment on rentre finalement dans ce livre? Comment vous avez lu ce livre?
C'est un livre difficile, on est d'accord sur cela. Il ne faut pas le lire avant de lire des livres qui expliquent ce livre-là.
Il faut d'abord lire les commentaires sur l'éthique avant
exactement,
de lire l'éthique.
Exactement, c'est ça. Mais c'est vraiment un effort intellectuel énorme ce qu'il a fait.
Mais ceux qui ont lu l'éthique, souvent disent d'ailleurs, même si c'est difficile, ça a complètement changé leur vie, quoi. Donc c'est un drôle de livre, mais qui est capable de transformer littéralement nos vies. C'était son ambition, il fallait transformer très concrètement les vies.
Oui. Alors, ce qu'il voulait faire, il voulait changer le monde. Il avait cette conscience. C'est pas par hasard qu'il a fait ça. Et il écrivait en latin. Pourquoi? Parce qu'il disait, je ne peux pas écrire aux gens normaux parce qu'elles ne sont pas prêtes à entendre ce genre de choses. Elles sont en ignorance de la réalité, elles sont en soumission aux religions et aux superstitions. Alors, je vais dire ces choses, seulement les autres philosophes vont entendre. Et ces autres philosophes seront influencés pour ces idées, et puis ils iront influencer les hommes politiques. Et les hommes politiques, ils vont changer la...
Il avait vraiment cet espoir-là d'avoir une telle influence. C'est vrai qu'il a influencé beaucoup de philosophes, on va peut-être y revenir dans un instant, José Rodríguez dos Santos. Il a lui-même été fortement influencé par Descartes. C'est vraiment le père quand même de Spinoza intellectuellement.
Descartes était le... Bon, était sa inspiration, mais on dit que Spinoza, il était hyper cartésien, voire il était plus cartésien que Descartes lui-même. Descartes prenait toute une séquence automatique de la nature, mais il trouvait du lieu pour Dieu et changeait des lois de la nature, et Spinoza n'acceptait pas ça.
Ils n'ont pas la même vision de Dieu, c'est ça que vous nous dites.
Et de la même vision de Dieu, et en plus, par exemple, de l'âme. Descartes disait, oh, l'âme elle existe dans le corps, dans un coin, et quelconque dans le corps, et Spinoza a dit, mais c'est une connerie. Non, l'âme elle naît de la biologie, normalement, de la psychologie, ce qui est en effet ce qu'on croit aujourd'hui, la conscience émergente de la biologie.
José Rodríguez dos Santos, vous êtes l'invité des dieux dans tout ça ce dimanche. Nous parlons de Spinoza que vous mettez en scène dans votre dernier roman, L'homme qui a tué Dieu. Bon début d'après-midi en notre compagnie. Apprendre aujourd'hui, selon vous, de Spinoza. Qu'est-ce qui est encore le plus vivant au fond dans cette philosophie, José Rodríguez dos Santos?
Bon, je dirais que nous vivons, comme j'ai dit au début, que nous vivons dans le monde de Spinoza. Il a finalisé la méthode scientifique de Francis Bacon et Descartes, mais il a fait une autre chose. Il a créé les démocraties libérales. Il a dit que, bon, attention, la religion, c'est pour la morale. Le vrai message de la Bible, c'est ne fais pas aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on te fait. Tout le reste, la religion ne doit pas toucher, par exemple, empêcher le développement de la science, de la connaissance. Pas possible. Et aussi, ils utilisent la religion pour dominer les gens politiquement. Alors, à la science, c'est pour les scientifiques, c'est pas pour la religion. Et la politique, c'est pour les politiciens et pour les citoyens, c'est pas pour la religion. Il faut qu'on se libère de ça. Il a dit, l'objectif de la gouvernation, c'est la liberté. Et il a prôné l'outre.